Alors on doute pas qu'il y ait des questions.
Pour la question, parce qu'il y en a plein en fait. Bon, comment les élèves connaissent l'existence du lycée Autogéré?
Très très bonne question. Alors le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Voilà. Alors, d'abord, il y a un milieu, on va dire, alternatif militant qui connaît l'existence du lycée, mais c'est pas beaucoup de recrutement de nos élèves. Ensuite, il y a des élèves qui font un petit peu comme un cheval de Troie. Donc, une année, on a un élève de Grigny, d'une ville de banlieue parisienne. L'année d'après, il y en a 14 qui postulent. Donc voilà, donc il y a des discussions entre eux. On essaye au maximum de toucher des conseillers d'orientation, de faire une réunion de présentation du lycée pour eux, une réunion pour les professionnels, que eux, suivant les cas d'élèves auxquels ils sont confrontés, puissent aussi penser au lycée autogéré. On essaye de faire ça et on le fait de mieux en mieux. Voilà. Mais c'est quand même beaucoup le bouche à oreille.
Est-ce que vous faites des petits? D'autres écoles autogérées
Pas du tout.
Non, pas des petits.
Alors, sur l'idée de d'essaimer, oui, voilà. C'est bien sûr Alors, c'est plus vrai dans nos pratiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies au lycée autogéré depuis très longtemps, qui peuvent être reprises dans des établissements, mais sur des histoires de tutorat, par exemple, c'est super à la mode et je pense que ça va être bientôt systématique. C'est-à-dire qu'il y aura un référent adulte, voilà, j'espère, du moins. Mais il y a des pratiques à nous qui peuvent être redistribuées ailleurs assez facilement. Par contre, un établissement qui fonctionne en autogestion, ben, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. D'abord parce que, alors il y a les blocages administratifs évidents, on est dans une société où quand même il faut avoir des responsables, il faut avoir... Nous on a une responsabilité collective de l'établissement. On a essayé d'avoir une convention, on a une convention qui garantit notre existence auprès du rectorat, qu'on a signé avec le rectorat, mais on a un lycée d'appui avec un chef d'établissement et qui s'arrache les cheveux quand elle voit la convention telle qu'elle est. Parce qu'elle a l'impression que, elle, s'il arrive quoi que ce soit, légalement, elle va être responsable. Donc on est dans une période où l'autogestion, ça va pas du tout être moteur pour permettre des ouvertures, des créations dans le cadre de l'éducation nationale, donc de l'enseignement public. Et je voulais rajouter quoi ? Hop, que actuellement, la mode, c'est... Pour ouvrir des structures, c'est pas des structures en tant que telles, c'est des annexes au sein d'une structure existante. C'est beaucoup le micro-lycée à la mode. Et donc là, on va être dans 4 ou 5 collègues qui vont se retrouver avec, 25 élèves, mais avec un fonctionnement qui sera sous la houlette d'un établissement avec... Il n'y aura pas la liberté politique d'organisation que nous on a, bien sûr. Et surtout, on leur demande de cibler... leur public de décrocheurs. Or, nous, c'est pas du tout un public de décrocheurs. On ne sélectionne pas des élèves qui auraient décroché du système. C'est pas du tout notre idée. Mais donc, non, c'est pas tellement tendance.
Et le devenir de vos élèves, quand ils sortent du lycée, est-ce qu'ils ont, ils arrivent à avoir des projets? Cette autonomie, ils la mettent à profit pour eux-mêmes?
Alors, c'est dur de répondre à cette question parce que les élèves qui sont passés au lycée et qu'on revoit sont des élèves pour lesquels, en général, le passage a été très fructueux. Mmh. Et donc, qui reviennent avec plaisir quand on organise des fêtes et qui sont en échange individuel avec nous. Donc, c'est quand même un peu biaisé, le regard. Après, moi, je peux répondre avec fierté sur les armes nos élèves ont quand ils sortent, et ces armes-là sur le fonctionnement associatif font merveille. Voilà, d'organisation de débats, de prise de parole, toutes ces choses-là. On est à l'entraînement, mais rien à voir avec les autres élèves d'établissements traditionnels. Donc, alors par contre, ils n'ont pas le bac, statistiquement.
Voilà, j'y comprends rien là.
alors, Alors, je reviens sur... Ils n'ont pas le bac. Il y a beaucoup, beaucoup de nos élèves qu'on a inscrits qui n'auraient jamais pu préparer le bac ailleurs qu'au lycée. Voilà, on leur avait dit non au général, on leur avait dit non à l'école, on leur avait dit... Voilà. Donc, certains parmi ceux-là vont arriver à avoir le bac au lycée.
En redoublant, alors. Ils redoublent ailleurs.
Non, au lycée, ils arrivent à l'avoir. Parce que le gros problème qu'on a avec les élèves en général, c'est des difficultés à l'écrit qui les ont disqualifiés dans leurs études précédentes. Et parce que le rapport à l'écrit en France, c'est comme ça, on est évalué à l'écrit. Donc si on est dyslexique, si on est, voilà, c'est rédhibitoire et on est très vite hors course. Et comme nous, ces élèves-là, on les inscrit, si jamais ils arrivent à avoir 8 de moyenne sur les épreuves au bac, ils sont qualifiés pour aller défendre leur chance à l'oral. Et là, on revient sur nos capacités de tout à l'heure, ça va, quoi.
Mais après bon, l'intérêt, c'est d'avoir un boulot au bout. Ils font quoi? Est-ce que vous avez un retour?
Alors, je vais avoir très... Moi, je trouve que l'intérêt, c'est aussi de former des citoyens.
Pour être citoyen, il faut avoir une légitimité sociale dans notre système, en fait.
Alors, je pense qu'il y a des armes. On n'a pas un lycée professionnalisant. Donc, ils ne sortent pas du lycée avec un travail. Par contre, les activités qu'on
lycée,
a...
On ne demande pas de sortir du lycée avec un travail. On leur demande de sortir après le lycée, après un cursus, peut-être IUT universitaire, avec un boulot. Et là, on est aux prémices, du prémices, en fait. Quoi. Parce que je suis un béotien, moi je suis pas éducateur, ni prof, ni instit. J'ai des enfants.
C'est voilà. Pas mal comme histoire.
Et voilà. Et je. En fait, je.
Alors, il y a aussi des activités.
Je veux savoir ce qu'ils font après, quoi. Alors, pour s'insérer dans la société, la nôtre,
alors,
quoi.
Beaucoup dans l'associatif.
Aussi imparfaite qu'elle soit, quoi.
Beaucoup dans l'associatif. Ensuite, il y a des activités de lycée. On a par exemple un atelier lumière avec la mise en lumière de nos spectacles. On a une salle de spectacle qui est équipée comme un théâtre professionnel, quoi. On a du matériel, on décide de mettre des sous là-dedans. Donc il y en a plusieurs, je dis ça parce que c'est représentatif. Il y a une filière, il y a un filon, un gesson et un filon lumière. Donc des gens qui vont travailler dans le. Qui seront en général intermittents du spectacle et qui vont être.
C'est d'actualité, justement, à l'heure.
Au jour d'aujourd'hui en vivent.
Ouais. Et ils se battent pour leur système d'indemnité chômage.
Oui, mais ça tombe bien parce qu'on
est
aussi des bons combattants.
Le truc, il est là.
Il y a les deux branches. Il y a l'aspect technique et il y a l'aspect combattant. Non.
Il y a madame qui a une question là-bas depuis tout à l'heure.
C'est-à-dire, c'était savoir quel était le devenir de ces jeunes.
C'est une saltimbanque.
Et on a tout, quoi. On a vraiment, on a des élèves qui s'inscrivent en droit, on a des élèves, on a tout. On a, c'est très compliqué de répondre parce qu'on a une variété.
Vous faites un suivi.
Et ben non, et on n'a pas. C'est là que je parlais du biais, du voilà, c'est biaisé bien sûr parce qu'on n'a pas, on fait pas ce travail-là et on n'a pas un universitaire gentil s'il y a des candidats dans la. Un sociologue qui voudrait voir de devenir à 5, 10, 20 ans. On a 35 ans d'âge, donc on arrive à avoir aussi. Voilà, que font les enfants d'élèves qui ont. Mais on n'a pas eu, on n'a pas encore fait ça.
Vous n'avez pas eu d'ex-élèves qui soient devenus profs dans le lycée toujours ?
Si, nous en avons actuellement en poste 2, Manu et Christine. On a pour la première fois, il y a 2 ans, inscrit. Un enfant d'anciens élèves qui se sont rencontrés au lycée. Wow. Deuxième génération.
Mais c'est ça que je demandais tout à l'heure, les petits.
Le lycée fait des petits.
Voilà, alors un, super sympa, Thomas.
Vous avez toutes les séries au lycée, pardon.
Et on a toutes les séries, on a littéraire, sciences économiques et sociales et scientifiques, avec une prédominance des filières littéraires sur l'inscription de nos élèves. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'inscrire au bac et aller le passer, mais souvent ils ont des pratiques artistiques qui les orientent plus vers des filières littéraires. On a, parce qu'on fait spécialité théâtre, cinéma audiovisuel, musique, langue, et je vais en oublier une. Et une autre. Un plastique, bien sûr. Un plastique.
J'ai une question
là-bas. Oui, j'ai une remarque quand même par rapport à la question du travail. Il y a des tas de gens, enfin moi j'ai fait un lycée technique, diplômant avec un métier et tout. Là, beaucoup de mes amis se sont retrouvés au chômage, n'ont pas eu de boulot, et il y a des tas de cursus actuellement qui mènent au fait de ne pas avoir de boulot, quoi. À rien. Donc je dirais que quelque part, la question, c'est pas qu'elle soit malvenue, mais en fait, c'est pas pire que. C'est pas ni mieux ni pire que. Moi, la question que j'avais, c'est par rapport au personnel non enseignant, c'est-à-dire est-ce que le personnel administratif est inclus dans la démarche pédagogique?
Oui, j'ai pas dit ça. Alors, j'ai pas écrit.
Alors, mais c'est, ça se répare.
Merci. J'ai pas dit. On a il y a 25 profs au lycée et ces profs-là sont cooptés. C'est-à-dire que c'est l'équipe enseignante en poste qui va choisir le recrutement d'un collègue. On ouvre un poste, la personne est choisie pour venir une année. À la fin de cette année-là, elle dit si elle a envie de rester ou pas. Et si elle a envie de rester, l'équipe vote. Oui, tu peux intégrer l'équipe de façon définitive. Donc ça, c'est nous, on est volontaires. On a aussi, par rapport à un métier d'enseignant ailleurs, on a aussi des charges différentes au lycée qu'on accepte en prenant le poste, quoi. Donc ça, c'est nous, on est volontaires. Ensuite, il y a une secrétaire à plein temps qui n'est pas volontaire, qui est nommée, qui est un poste catégorie C de l'éducation nationale. Alors la secrétaire, c'est le plus compliqué à intégrer à notre vie parce qu'elle a son rôle très géographique, et là on en a une en Nord par exemple, mais quand elle participe à une AG, quand elle participe à une réunion d'équipe, ça veut dire aussi qu'elle va se retrancher d'un travail qui est quand même quotidien et très important, quoi. Donc voilà, ça c'est le poste un peu plus compliqué. Il y a un poste d'agent d'entretien à plein temps qui est, alors là, fondamental, parce que c'est aussi un regard différent sur nos élèves et une occupation des lieux en dehors des salles où il y a des activités. Donc on a un jardin. Dans le jardin, dans la cafette, ces lieux un peu informels où ils peuvent être en contact avec les jeunes, et ça c'est super important. Et puis on a une infirmière à mi-temps, on a une assistante sociale qui vient une journée par semaine, et ces gens-là sont intégrés aussi à la réunion d'équipe, en sachant qu'ils ne votent pas sur les décisions, par exemple. Voilà. Mais
il y avait une question là-bas tout à l'heure. Est-ce que c'est un peu la question?
Et j'ai pas dit. Je suis moi-même représentante de la commission budget cette année. Et c'est nous qui gérons les factures, la transmission des documents à notre agent comptable. Nous faisons le ménage. Et donc, il n'y a pas d'agent d'entretien. Après notre réunion politique, vient le plaisir du ménage. Avec les élèves, bien entendu. Ça fait partie. Mais ceci dit, alors c'est super intéressant ça. Mais moi j'ai connu ça quand j'étais au primaire, quoi. C'est-à-dire que oui, on lavait le tableau et oui, on ramassait les trucs qu'on avait.
Mettait le charbon dans le poêle.
Voilà, et ça c'est. Nous on avait froid dans l'école. Putain de chaudière. Non. Et ça, c'est s'approprier l'endroit. Et on est chez nous, quoi. On est chez nous, et quand c'est crade chez nous, et ben c'est crade chez nous. Et on fait une AG parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est crade chez nous. Mais c'est une manière d'être. Voilà, de... Et pour moi, c'est tellement évident. Le classement PISA, là, dont on a. Le classement, vous savez, le classement international de OCDE, qui sait bien faire l'école, hein. La Corée est super bien classée.
Et le sud et du Nord.
La Corée du Sud. Le Nord, nous n'avons pas de données. La Corée du Sud est super bien classée parce que les critères de PISA sont ce qu'ils sont. Ils font un peu peur aussi. Mais en Corée, on nettoie sa salle. Voilà, on est dans un espace dont on est responsable et voilà, mais c'est propre. Beaucoup plus qu'au lycée autogéré, peut-être. Il faudrait qu'on compare nos techniques. Mais c'est, par exemple, nos élèves disent qu'ils n'ont jamais eu dans leur cursus des toilettes aussi propres que chez nous. Et ben, alors moi ça me fait peur parce que je vais aux mêmes toilettes qu'eux. quand même parfois c'est un peu limite. Mais je pense que ce truc-là de se responsabiliser et d'être chez soi, ça n'a pas de prix, quoi. Et en plus, c'est des économies sensibles. Hein. On supprime de l'emploi, enfin, je sais pas comment faut le dire. Mais... Non, voilà, ça, j'avais pas dit.
Il y a une question là-bas.
Quelle est la répartition garçon-fille au niveau des élèves ?
Eh bien, elle est beaucoup plus garçon que d'habitude en filière, dans ces filières-là. Parce que, en fait, les garçons, nous, on a quand même pas mal d'élèves qui arrivent après des échecs scolaires tonitruants. Et l'échec scolaire tonitruant, il est très masculin.
Ouais, on est les champions.
Donc on est plus, il y a plus, il y a plus de garçons.
Et comment ça se passe?
La différence de sexe pour nous n'est pas une barrière. Non,
non, non je vois, tu ne me laisseras pas.
Non, ça se passe
pas.
Parce que c'est aussi un âge où c'est pas facile toujours le rapport garçon-fille.
Eh bien, tout à l'heure, quand je discutais là de l'impression que j'avais de métissage beaucoup plus facile, j'ai l'impression que ça se passe bien. Que la structure collective qui est mise en place est de nature à aider les rapports individuels, c'est sûr.
Une question là en face, si elle vient.
Oui, j'avais une question par rapport au contenu pédagogique, du coup, savoir ce que vous prenez en fait des apprentissages qui peuvent être proposés dans le cadre de programmes, certes, mais qu'est-ce que vous gardez, vous en tant que professeur de langue ou dans le lycée, est-ce qu'il y a des choses qui sont gardées en plus de projets d'autogestion, quand vous faites les classes où il y a deux professeurs, qu'est-ce que vous gardez en termes d'apprentissage plus scolaire, du coup?
Alors moi, parler de ça à une prof de langue, c'est déjà parler à un prof qui est super libre pendant toute sa carrière, quel que soit l'endroit, pour mettre ce qu'on veut sous les yeux des élèves, dans les oreilles, et voilà. Donc là, pour le coup, moi, la notion de programme, les programmes, c'est très facile que je justifie devant un inspecteur que je fais le programme. Voilà, ça, j'ai pas de problème avec ça. Donc pour moi, c'est une grande liberté. C'est pas vrai de toutes les matières enseignées au lycée. Et pour le coup, il y a, je pense, à sacro-saint programme d'histoire géo qu'on ne finira jamais en terminale. Et pour ces gens-là, ça a été le choix de, dans le temps horaire qui est imparti, faire un travail, je vais dire, minimum, d'ordre du bachotage, on y revient, hein, qui permettent de mettre en place sur la classe de seconde quelques repères fondamentaux, la décolonisation, je sais pas, voilà, des trucs comme ça. Ce serait bien que ça, quand même, ils en aient entendu parler. Le faire différemment, on mélange des arts plastiques, de la littérature, de l'histoire, voilà. Travailler sur un livre, ça peut être... Il y avait cet exemple-là de L'amant de Marguerite Duras en faisant de la littérature, du cinéma... de la géographie, quel climat apparaît dans le machin, de la géopolitique, voilà. Et d'avoir une manière d'envisager une œuvre et ses répliques comme chacun peut choisir le regard qu'il y pose et avoir un regard technique. Et ce que j'y fais là, ça ne va pas s'appeler de l'histoire, simplement on va être en plein dedans, avec un exemple concret. Donc on n'est pas si prisonnier que ça. Je vais aller voir, hein, mais j'espère vraiment que c'est vrai aussi ailleurs.
C'est vrai. C'est vrai. Ouais, merci. Prof de langue aussi, et c'est vrai qu'on a une grande liberté par rapport à d'autres matières, et vraiment on peut apprendre les langues qu'on veut, langue de star.
Et
si on trouve des collègues qui sont motivés dans d'autres matières, c'est encore mieux, quoi. Et c'est possible.
Merci.
Moi, je voulais savoir si il y avait des... Parce que vous dites que vous êtes 25 enseignants. Donc, il y a certainement d'autres enseignants qui ont entendu parler du lycée autogéré. Et donc, est-ce qu'il y a des enseignants qui viennent vous voir ou qui profitent de leur jour de congé pour, Est-ce qu'il y a d'autres enseignants qui font la démarche de venir à votre rencontre et voir un peu comment ça se passe à l'intérieur?
Alors, il y a des enseignants, il y en a quelques-uns. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont plus de temps que nos collègues les enseignants et qui sont peut-être plus souples dans leur emploi du temps, pour venir passer une semaine de stage, 15 jours de stage, d'avoir des discussions aussi avec nous. avec nos élèves, ce qui est un autre regard et qui est, à mon avis, pour eux, 15 fois plus intéressant que le mien. Voilà. Vraiment, Enfin, pour moi, l'échange, c'est... J'ai essayé d'avoir un élève, là, ce soir, et puis c'est pas possible, parce que l'Aveyron, c'est loin. Mais ouais. Comme ça.
Vous voulez dire des étudiants qui se destinent à être enseignants ?
Oui, des gens en sciences de l'éducation, des gens qui sont aussi sur des périodes de recherche, qui font qui mènent des réflexions sur, en particulier, l'autogestion. On a aussi des, on va dire, des chercheurs militants qui sont intéressés par des expériences comme la nôtre. Et les collègues, ça arrive aussi, mais ils ont moins de temps en général.
D'accord. Une question ?
Oui. Qu'est-ce que tu aimerais bien amener de ton expérience dans une autre école ?
J'ai droit à quoi ? Je vais sur une île déserte, c'est ça ? Alors, Mais j'ai l'impression vraiment que notre métier est facilité là par le choix de fonctionnement collectif qu'on a fait, et ça va pas être facile à exporter comme ça. Donc, on parlait là de travail en équipe et de concertation possible avec d'autres matières, avec voilà. Ça, je pense qu'il y a peut-être, en étant un peu réaliste, des espaces qui sont possibles dans l'éducation nationale telle qu'elle existe aujourd'hui. Et peut-être c'est ça, quoi, le travail en équipe et essayer de sortir un peu des carcans, de saucissonner des matières là où... où les élèves prennent 55 minutes de physique, puis 55 minutes de... Voilà, puis 55 minutes, 55 minutes. Sortir un peu de ce saucissonnage et voir les choses... Voilà, peut-être un peu d'interdisciplinaire, si je pouvais. Dans la partie des choses réalistes, hein, parce que sinon, il y a le choix des élèves.
Ça m'a quand même pris à peu près 30 ans pour comprendre que Goethe et Mozart étaient des contemporains. L'un, c'était dans la musique, l'autre, c'était dans la littérature. Et à l'école, j'ai jamais mis le rapprochement. Ils sont vécus au même moment.
Ils ne sont pas contemporains, ils sont allemands.
Quelle est l'origine sociale des élèves de ce lycée ?
C'est une question très intéressante. Il semblerait, alors, sur les indicateurs, nous, on renvoie des enquêtes sur les catégories socio-professionnelles des parents. On nous demande des statistiques anonymes, comme ça, au début de l'année. Et il semblerait qu'on soit quand même en catégorie sociale supérieure. Pas mal de fils d'enfants d'artistes, de professions intermédiaires, ça s'appelle. Et finalement, les classes sociales, on va dire, on habite quand même à Paris, et on a à proximité de nous des réseaux d'éducation prioritaire et des zones très très sinistrées. Et finalement, à part quelques foyers, j'en parlais tout à l'heure, hein, d'élèves qui tout à coup vont entre leurs potes en discuter, et puis on va avoir des cités représentées, parce que c'est de l'ordre de ça, c'est très très minoritaire, et nos élèves sont... j'ai pas les armes sociologiques pour décrire ça en vocabulaire, mais plutôt plus élevé que la moyenne d'un lycée semblable au nôtre. En sachant qu'on est à Paris, que les lycées semblables au nôtre, il n'y en a pas beaucoup, et que nos catégories socio-professionnelles n'ont quand même rien à voir avec celles des 3 ou 4 lycées dont vous connaissez les noms, et que c'est incroyable qu'il y ait en France des lycées dont tout le monde connaisse le nom, quoi.
Paris 4.
C'est ça. Et un Allemand.
J'étais pas là au début, désolé. Combien il y a d'établissements comme ça en France ? Et est-ce que il y a des remontées à l'académie ? Et est-ce que ça donne envie de s'inspirer de ce modèle ? Ou est-ce que vous faites des démarches pour faire comme un laboratoire ? Je ne sais pas, pour que tout le monde en bénéficie, que ce soit un peu...
Alors, il y a... Autour de l'autogestion, au moment où le lycée de Paris a ouvert, il y a le lycée de Saint-Nazaire qui a ouvert aussi, qui fonctionne encore aujourd'hui, qui s'appelle le lycée expérimental de Saint-Nazaire. Et ces deux établissements-là fonctionnent avec pas de chef d'établissement, pas d'agent, on en a parlé, c'est-à-dire les adultes, c'est des profs, et des profs et des élèves, et c'est tout. Donc là, on est deux. sur, il y a des volontés. Alors on a, par exemple, nous, on est un peu utilisé par le rectorat de Paris comme vitrine de, on innove à mort.
Depuis 35 ans.
On est aussi utilisé par le rectorat de Paris parce qu'on scolarise des élèves qui, s'ils n'étaient pas dans nos listes d'inscrits, ne seraient pas inscrits du tout. Et ça, pour leurs statistiques, ils ont horreur de ça. Donc on est utile. Ils ne nous connaissent pas. C'est-à-dire, ils ne nous connaissent pas. On réclamait un demi-poste de rien du tout. Et on a encore été reçus au rectorat, c'était il y a 4 mois, victorieusement, je le note parce que c'est assez rare pour être remarqué, et bien ils nous ont demandé d'envoyer la composition de la délégation qui allait être reçue. Il fallait évidemment qu'il n'y ait pas d'élèves dans cette délégation, ça nous était précisé, et puis il fallait quand même qu'il y ait notre chef d'établissement. Et donc ça veut dire que voilà, la secrétaire, on était sur les niveaux, les couches supérieures, les couches supérieures du rectorat, on était avec la directrice académique. Et ça veut dire que le secrétariat de la directrice de l'académie, quand il nous contacte, dit « N'oubliez pas de prendre votre chef d'établissement. » Il y a un truc un peu usant, quoi. De méconnaissance, si c'est de la méconnaissance, c'est pas très professionnel. Et puis ça peut être juste du...
Mépris.
Ouais, des choses pas très gentilles.
Des bouffons.
Les mots m'échappent.
Concernant
et
la...
Et du coup, pardon,
ah, pardon.
Il s'est passé quoi pendant cette réunion?
Et ben, on a été reçus. Oh, bon, alors pour l'anecdote, on a été reçus, c'était horrible. Horrible, on était 6 comme ça, là, une table comme ça, ils étaient 2 en face. Et la première chose qu'elle nous a. On demandait un demi-poste supplémentaire, on était 24 et demi. Et elle nous a dit qu'elle nous avait trouvé une solution. Au lycée, on travaille 25. Notre emploi du temps, c'est 25 heures par semaine. Un prof certifié, son emploi du temps, c'est 18 heures. Donc nous, on travaille 25 heures et actuellement, on est payé 18 heures, donc un temps complet, plus 2 heures supplémentaires. Et il y a 5 heures de, voilà, qui ne sont pas rémunérées, a priori. Voilà. Alors, ce qu'elle nous proposait de faire, c'était qu'on se cotise avec nos heures supplémentaires pour permettre la création d'un demi-poste. En disant, dans les établissements, c'est comme ça. Certaines années, on a une heure supplémentaire. D'autres années, on ne l'a pas.
Et elle donne combien de ses heures pour,
Moi, je n'ai pas eu le réflexe de lui dire sur le coup. C'est une collègue qui l'a dit après, on a dit au mégaphone, mais c'était trop tard, elle n'a pas entendu. C'est super bien isolé. Et puis finalement, bref, c'était incroyable de mépris de sa part. Et puis, on est sortis de là complètement effondrés. Et puis, le lendemain matin, ils nous ont appelés en disant qu'ils avaient trouvé une solution. Et qu'on serait 25 postes temps complet l'an prochain, avec chacun une heure sup et un autre truc qui ressemble à une heure sup.
Dans la suite de ce que dit ma collègue, est-ce que c'est l'éducation nationale qui gère...
Il y a des questions.
Oui, alors j'espère avoir été assez claire là-dessus. On est un lycée public, les profs sont rémunérés par l'éducation nationale et la scolarité est gratuite.
Je voulais savoir, pour revenir sur le panel sociologique des élèves, si ça avait à voir de près ou de loin avec le fait que vous soyez dans le 15e, qui est loin d'être l'arrondissement le plus défavorisé de la capitale, et d'autre part, géographiquement, d'où viennent les élèves? Est-ce que certains viennent de loin, par exemple? Et ceux qui viennent de loin, est-ce qu'ils font le trajet tous les jours, en fait, etc.
Alors, nos élèves ne viennent pas trop du 15e arrondissement de Paris. Voilà, les profs non plus, d'ailleurs. On est plutôt nord-est parisien, tous, c'est-à-dire qu'on traverse un peu, voilà. Cette année, c'est un peu moins de 30% de nos élèves qui viennent de banlieue. On fonctionne sans carte scolaire et donc on s'est donné comme souplesse de fonctionnement d'attaquer à 9h le matin pour que des gens qui viennent de loin puissent prendre les transports et traverser comme tant de franciliens le font en RER, en train, voilà, pour arriver au lycée. Mais on est beaucoup plus... Et il n'y a pas d'internat, on est dans de l'immobilier hors de prix. On en parlait tout à l'heure, à Saint-Nazaire, au lycée expérimental, ils ont des idées de logement semi-collectif, de location en commun, voilà, pour héberger des élèves qui viennent de très loin, et nous, ça, on ne fait pas. Et nos activités, c'est de 9h à 18h.
Oui, une question très éducation nationale. Est-ce que vous êtes inspecté aussi en tant que prof? Vous n'avez pas, pas d'inspection, pas de notes, pas de...
Alors, moi, je... Inspecté. Alors, pour les gens non éducation nationale, l'inspection n'est pas ce lieu d'échange incroyablement riche pédagogiquement dont on pourrait rêver, bien que ça arrive parfois. C'est, je pense, dans la vision du prof, l'occasion de voir sa carrière évoluer. Voilà. Ou pas. Donc, être inspecté, ça arrive pas beaucoup. Alors, on a reçu... Moi, ça me dérange que les inspecteurs ne viennent pas au lycée autogéré. J'aimerais bien qu'ils viennent. J'aimerais bien discuter avec eux. Ma carrière n'avance pas à l'heure actuelle. Je veux bien qu'elle continue à stagner, mais je me dis qu'il y aurait sans doute des choses à prendre bonnes de part et d'autre dans cet échange-là. J'aimerais bien. Simplement, ça ne vous aura pas échappé, certains anarchistes se sont glissés dans cette équipe qui voit d'un très mauvais œil le concept même d'inspection. Donc quand on essaye de se mettre d'accord en réunion d'équipe sur est-ce qu'on invite les inspecteurs, qu'est-ce qu'on leur dit, comment on le fait, qu'est-ce qu'ils ont, voilà, c'est des choses qui sont très très clivantes entre nous et on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et je dois dire que mon intérêt pour les échanges fructueux qui pourraient avoir lieu s'efface vite. Je trouve ça dommage qu'on soit pas plus mais ça dépasse les inspections, qu'on soit pas plus ouvert à l'éducation nationale. On parlait des collègues qui peuvent individuellement venir sur leur parce qu'ils ont entendu parler du lycée, mais pourquoi pas en faire un lieu de
formation d'inspecteurs,
formation. Mais ça, par exemple, c'est hors de question. Il y a des collègues qui étaient titularisés en cours qui ont eu un concours au lycée. Systématiquement, la réponse qui a été faite... Alors, ils étaient donc sur une trajectoire de 8 ans, 10 ans d'enseignement au lycée. Ils ont un concours en formation interne. On leur demande de quitter l'établissement pour aller faire un an ailleurs où ils pourront être inspectés avant de revenir au lycée, quoi. Donc, c'est sûr que... Voilà. Mais ils nous connaissent pas du tout. Ils racontent... Dès qu'on les entend parler, on se dit qu'ils se disent... Et on comprend qu'ils viennent pas parce que si on les écoute, il y a vraiment une vision de « on fout rien, mais on fout rien ». C'est la chandie. Voilà, donc il y a une méconnaissance de part et d'autre.
J'ai du mal à comprendre, parce qu'en fait c'est un lycée éducation nationale, comme n'importe quel lycée, sauf que vous, il n'y a pas les inspecteurs, il n'y a pas de programme, il n'y a pas la responsabilité... il n'y a pas tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi l'éducation nationale n'impose pas la même chose à vous qu'à tout le monde.
Alors, je reviens sur la responsabilité d'un adulte face à un mineur. Elle existe. Hein. Je suis bien évidemment responsable de mes élèves au moment où ils sont au lycée.
Non, parce qu'il y avait l'idée que quand les parents ne sont pas avertis que l'enfant n'est pas venu à l'école... Du coup, ça se passe comment ?
Jusqu'ici, ça s'est toujours très bien passé. On va voir s'il y a un élève qui se fait écraser par une voiture. Évidemment, ça va poser des questions. Ça va poser des questions de responsabilité. C'est évident, quoi. C'est évident. L'éducation nationale, on n'est pas. J'espère que j'ai pas fait un portrait faux de ce qu'on fait au lycée. On est intégré à l'éducation nationale et les élèves qui veulent préparer leurs examens au lycée. Préparent leurs examens. Les élèves qui veulent réintégrer, il y en a qui viennent une année au lycée et qui se disent ensuite « Oh là là, moi, cette liberté-là, j'ai du mal. » Mais maintenant que peut-être ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire un peu après, pour ça, j'ai besoin du bac. Je vais reprendre un cursus dans un lycée traditionnel pour mon objectif qui s'est dessiné là. Et bien, ceux-là, évidemment qu'on leur fait des bulletins avec des notes comme un vrai lycée, qui leur permettent de suivre le cursus qu'ils ont décidé de faire. On n'est pas du tout... Il y a des collègues dans l'éducation nationale qui refusent les inspections. On peut le faire. C'est que le système de l'inspection, d'un point de vue... Enfin, on pourrait... C'est un vaste sujet, mais... L'inspection du prof, ça note le prof. Dans une situation ponctuelle, une fois tous les 5 ans. Voilà, et ça note le prof. Et le prof va reproduire ça dans son enseignement, où il va noter les élèves, ce truc-là. Et bien ça, on peut quand même questionner l'efficacité du processus. Et bien en dehors du lycée, on n'est que 25 sur la France entière, hein, en dehors de ces 25 petites personnes-là, il y a des collègues qui refusent les inspections, façon politique. Et il y en a qui se font sanctionner par leur hiérarchie pour refus d'inspection aussi.
Quels sont vos rapports avec l'école Montessori? Quels sont vos rapports avec l'école Montessori?
Ça, c'est une question que je ne sais pas. Alors, si, Madame Montessori, née en 1880. Moi, je ne suis pas du tout une technicienne, comme je le disais au début. Si l'idée que j'en ai, c'est-à-dire mettre l'élève et ses besoins à la base et aider par des apports, quand l'élève ressent le besoin d'apprendre, donner des billes pour arriver à construire ça, eh ben, on est plutôt dans des mouvements comme ça. On parlait plus de Freinet, et donc j'ai pas revu ma... Et voilà. Après, moi, là où je suis vraiment pas forte, donc je préfère pas y aller, autour de Montessori, c'est quelle place a le collectif. Et ça, moi, j'en sais rien du tout. Et chez nous, c'est sûr que d'abord, c'est le collectif. Et bien, on est avec des grands aussi. Pendant la question, je peux voir des coups.
Non, mais la question reviendra.
Tu as parlé que le fait que les élèves sont dans des commissions, ils prennent des décisions, ils apprennent de prendre la parole devant les autres, d'argumenter, de convaincre, d'être convaincu. Tout ça, ça les forme quand même en citoyens. Qu'est-ce qu'on pourrait installer dans les écoles, dans les autres écoles de cette expérience? Comment on pourrait enrichir les autres institutions avec... Qu'est-ce que tu vois comme pied de levier d'introduire plus de cette éducation politique, citoyen, dans l'école normale, où mon impression, mon image de l'école française, c'est vraiment le cran en ton noir. Hein. Tu te tais et tu encaisses.
Alors ça, j'espère que c'est en train de disparaître. J'espère qu'il y a des ouvertures à ce sujet. Moi, de façon basique, juste libérer cette parole. Qu'il y ait des vrais espaces de parole où la parole d'un élève ait du poids. Parce que de ce que j'ai vécu moi comme élève, il y a eu des activités dans lesquelles moi j'étais élève, dans des établissements on ne peut plus traditionnels, où je sentais bien que mon intervention modifiait les choses. Et puis j'ai aussi vécu des endroits avec d'autres profs, dans d'autres activités, où mon intervention ou rien, c'est exactement pareil. Donc je pense qu'il y a des espaces qui existent et que le rendre possible... Cette liberté de parole, on en a beaucoup discuté après les attentats de Charlie dans toute l'éducation nationale. On a reçu des lettres de ministres qui nous encourageaient à laisser les citoyens s'exprimer et tout. Mais de quoi on parle? À quel moment dans la structure dont tu es la grande chef, à quel moment cette parole-là, elle est libre? Si les gars, ils n'ont pas... S'ils ne peuvent pas dire leur sentiment... Enfin, c'était condamné, quoi. C'était, je sais pas, aucune liberté de parole. Donc pour moi, ça, ouvrir des espaces de parole, c'est fondamental. Et que cette parole ait du poids. Et que ce soit pas une heure qu'on ouvre une fois parce qu'il y a eu un attentat, quoi. Et si c'est quotidien, et ben le jour de l'attentat, on sera peut-être plus... Ce sera peut-être plus facile d'en discuter. Ça a été très très compliqué de discuter des attentats de Charlie Hebdo.
Au sein même de votre lycée?
Ben chez nous, on a fait des AG, non, pas au sein de notre lycée. Enfin, ça a été des moments super forts et vachement... voilà, j'en ai un souvenir prégnant. Mais chez nous, c'est, je pense à d'autres collègues plutôt qui ont eu dans des moments d'échange super compliqués avec des élèves qui... la liberté d'expression, ok, mais là, c'est pas bon. Mourir, ouais, peut-être. Enfin, vous les avez entendus, ces interventions-là. Et elles ont été condamnées. Et on n'a pas pu les prendre en compte. Et on n'a pas pu travailler avec, dessus. Parce qu'il y a même eu des affaires judiciaires sur des prises de parole comme ça. Donc voilà, si on ne peut pas parler librement et essayer de se convaincre les uns les autres... Quel citoyen. Et la vision de l'entonnoir, j'espère qu'elle est un peu...
plus ça. Hein.
Dépassé ouais,
non, parce que...
Est-ce que c'est dépassé?
Ils acceptent oui, plus. Mais oui, oui.
Hein, c'est pas que ça.
Oui,
c'est
que
j'ai entendu.
Non, mais... On va pas faire un débat à deux, là.
Les raisons pourquoi les Français parlent tellement mauvais des autres langues, c'est qu'ils n'osent pas de sortir une phrase dont ils ne sont pas sûrs qu'elle est 100% correcte.
C'est délicat à la princesse.
Je vais répondre à ça, là.
Non, mais qu'elle réponde.
Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? À dire, vraiment, Léna, ça a changé. Je vais te donner un exemple. Nous, en langue, on a maintenant des notions pour le bac, dont une qui s'appelle le progrès. Quand il y avait la manif contre le mariage pour tous en France, nous, dans notre manuel scolaire en espagnol, on avait des photos et des documents de deux hommes en train de se marier, qui était légal en Espagne depuis 2005. Et donc la parole était libre en classe et les élèves pouvaient s'exprimer dans une langue étrangère dont je n'avais rien à cirer si c'était l'imparfait des subjonctifs comme il fallait. Donc je veux dire, je ne corrigeais pas les verbes parce que maintenant... Il y a ce qu'on appelle le cadre européen et ça s'enseigne autrement les langues. C'est plus les Français qui étudient l'anglais pendant 10 ans qui ne savent pas dire un mot. C'est plus les listes des verbes au subjonctif. Enfin, c'est une langue, c'est un outil de communication. Et ce que disait la jeune prof aussi, c'est que les langues, ce que disait Marion aussi, c'est on est moins prisonnier d'un programme. Et on a vraiment la liberté. Bon, il y a maintenant 4 notions... Il y a le pouvoir et tout ça, et on fait du politique. Et quand j'ai fait, par exemple, le soja transgénique en Argentine, c'est moi qui choisis les documents. Donc je peux dire, travailler sur le commerce équitable, sur beaucoup de choses en classe. Les élèves peuvent me dire, ah, c'est pas la même version que la prof d'économie. Donc voilà, j'ai donné notre point de vue et je libère la parole. Et mes élèves sont en train de pratiquer la langue espagnole. Donc ce qui compte, c'est qu'ils s'expriment, ils sont libres, et voilà, c'est le débat. Et donc ce n'est plus comme cet entonnoir que tu décrivais, c'est tout ce que je voulais dire.
Il
avait
demandé le premier.
Oui, mais moi c'est pas une question qui est figée à ce genre de choses, donc si le débat continue...
C'est juste une rapide réaction par rapport à ce qui vient d'être dit aussi, c'est qu'il faut aussi rappeler qu'il y a des systèmes éducatifs au niveau des langues, ça marche beaucoup mieux. On a cité beaucoup les pays nordiques, les pays scandinaves, l'Allemagne... Mais ce sont aussi des pays dans lesquels les gouvernements sont très actifs au niveau des langues étrangères, de manière très simple, c'est-à-dire qu'à la télévision, quand un film va être espagnol, il sera en espagnol sous-titré en français, un film anglais sera en anglais sous-titré en français, donc il y a bien entendu un rôle des parents, etc. Mais il y a aussi un contexte général, national, global, qui fait qu'on n'est pas du tout à l'heure actuelle sur une valorisation des langues étrangères, même si on le dit, quoi. Et c'est des toutes petites choses, mais on veut aller au cinéma, ben les films ils sont en français. Moi je me rappelle, on regardait les Friends, on regardait les Beverly Hills et tout ça, c'était avec c'était catastrophique quoi. Enfin, il y a un peu de ça aussi. Voilà.
Alors, plus simple, sans être simpliste, pour apprendre une langue étrangère, il faut déjà savoir parler sa propre langue. Et lorsqu'on voit que lorsqu'on arrive en sixième, la majorité des enfants d'aujourd'hui ne savent pas parler le français ou mal l'écrire. Donc on a beaucoup de mal à embrayer sur une langue étrangère.
Moi je trouve aussi, ce que j'expérimente, j'ai des élèves dans le supérieur, en BTS, ils arrivent, et puis quand ils travaillent l'anglais, et bien, à des moments ils se disent « Mais madame, là, cette règle de grammaire, mais je ne la comprends pas ». Mais déjà en français, je ne comprends pas. Je dis, c'est là qu'on peut l'expliquer à ce moment-là, mais on peut aussi passer par la langue étrangère pour expliquer la langue maternelle quelque part, quoi. Ouais. Ça peut aider. Et il y a un problème, un gros problème au niveau de notre pays, c'est aussi le temps qui est consacré à chaque langue vivante, parce qu'on veut absolument apprendre que chaque élève apprenne deux langues vivantes avant le baccalauréat, enfin, voilà, avec juste 2 heures semaine dans chaque langue.
La plupart des pays européens le font déjà.
Ils le font, ils ont beaucoup plus d'heures. Enfin, moi, j'ai discuté avec des étudiants qui passaient leurs examens. Ils avaient 7 heures semaine, quoi. Enfin, évidemment, on n'est pas au même. Et puis, nous, on a des classes de 35. Enfin, on ne peut pas s'exprimer à 35 dans une classe, quoi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est.
Pardon.
Non, mais 35 élèves dans une classe, mais vous vous rendez compte, c'est absurde. C'est totalement absurde. Mais allez sur les barricades, mais allez à Paris, allez devant le ministère de l'éducation, vous les parents, mais faites-leur le feu devant la porte. 35 élèves, tu ne peux pas enseigner 35 élèves.
C'est la
majorité
dans la majorité des établissements scolaires.
Mais pourquoi vous
ne
vous révoltez pas?
Mais on s'est déjà révolté.
Déjà, tu en mets 10 à la porte, c'est bon, tu es bon.
Non, mais je voulais juste raconter une anecdote parce que ma fille elle est en seconde, elle me racontait une anecdote. Ils étudiaient un livre de Voltaire, je ne sais plus lequel que j'ai pas lu. Et donc, je ne sais plus si c'est quelqu'un qui se fait jeter, je n'ai pas compris si c'était un employeur avec. Enfin, je n'ai pas très bien compris. Et donc, en fait, ça a été reformulé par un mot d'argot. Ce mot d'argot a rebondi sur un autre, jusqu'à un élève d'Afrique du Nord qui a retranscrit dans sa langue. Et tout le monde a compris, et tout le monde était mort de rire. Et la seule personne qui n'a rien compris, c'est le prof. Et j'ai dit à ma fille, mais c'est super intéressant ce que tu viens de me raconter, parce que quand même, vous êtes en cours de langue, et si vous vous comprenez, imagine que vous êtes. Cet échange, il a lieu dans un pays étranger. Et les étrangers, ils ne vont pas comprendre, donc vous parlez bien français. Parce que vous êtes français, vous parlez entre vous. Mais le prof de français, lui, ne comprend pas. Et ça m'a vachement posé question. Enfin, même sur l'enseignement, on a le... Cet échange, il aurait eu lieu aux États-Unis, les Américains, ils auraient... Ou en Espagne, ils n'auraient pas compris les choses.
Ouais, donc c'était une question très éducation nationale, c'est pour ça qu'elle ne pressait pas. C'est quelle est la répartition des 25 heures de temps de présence au lycée par rapport au... Est-ce que les 18, enfin ordinaire, c'est 18 en tant que vrai prof, entre guillemets, devant les élèves, et puis après, j'ai du doublon, de la gestion. Comment ça se ficelle un peu ça?
Je vais donner l'exemple de mon emploi du temps. Parce que voilà, donc moi je suis prof d'espagnol cette année, je vais donner l'exemple de mon emploi du temps que je connais bien. Cette année j'ai 10 heures par semaine d'enseignement de l'espagnol, j'ai 2 heures par semaine où je fais de la reliure, j'ai 4 heures par semaine où j'ai accompagné des projets élèves, donc j'ai fait plusieurs groupes, ça m'a permis de faire de la couture et d'aller à Milan. Et puis d'aider des élèves qui partaient en Andalousie et de partir en Andalousie, parce que quand même je suis prof d'espagnol, bien que ça me serve. Voilà, j'ai 2 heures de réunion politique dont on parlait, j'ai 3 heures de réunion d'équipe, et on n'est pas arrivé à 25
à peine, non.
J'avais combien?
Bah, vous foutez rien.
J'ai 21. Et les 4 dernières heures, je dois glander. Alors,
et vous votez et pour qui?
Et je fais ma commission budget, qui me prend beaucoup plus que les 2 heures officielles sur l'emploi du temps. Mais ça, c'est vrai d'un peu tout. Je dis 3 heures de réunion d'équipe, mais c'est le mardi soir, on commence à 16h30, et en général, on finit vers 20h30. Voilà, ça, tout ça déborde un peu par rapport à l'emploi. Je fais pas du tout le même métier que ce que je faisais ailleurs, mais vraiment pas du tout le même métier que ce que je faisais ailleurs. C'est-à-dire qu'ailleurs, je corrigeais des copies.
Et oui.
Et là, j'ai. Alors là, pour un prof, c'est à peine croyable. C'est-à-dire qu'on poursuit les élèves pour qu'ils nous rendent des devoirs qu'on n'obtient pas. Et quand un devoir arrive, petite larme d'émotion. Non, c'est incroyable. Alors ça, par contre, c'est pour le coup, voilà, je corrige pas de copie, à mon grand dame.
Ça va changer.
Ben non, mais ça me dérange. Ça me dérange. J'aimerais bien en corriger un peu pour voir ce qui passe dans ce qu'on fait, quoi.
Ils arrivent un peu à parler espagnol quand même de temps en temps.
Mais ça, c'est vrai dans toutes les activités. Ils arrivent finalement beaucoup plus à parler un peu espagnol qu'à l'écrire un peu. Mais c'est vrai en français, c'est vrai en histoire, c'est vrai dans toutes les activités. Ils ont quand même une culture orale plus.
C'est déjà ça.
Oui, oui, c'est déjà ça. Mais comme tout,
apparemment, toute la question n'a pas été traitée. Ouais,
juste l'enchaînement. Tout à l'heure, tu nous parlais d'heures de doublon, entre guillemets, où un collègue de maths vient assister à ton cours pour aider. Et ça, ça rentre dans quelle partie de l'emploi du temps que tu nous as décrit? C'est les commissions
10 heures.
Alors, dans toutes les commissions et tout ça, on est plusieurs profs. Commission, réunion d'équipe, projet, en atelier, je suis avec une collègue aussi. Donc, Ah mais oui, c'est pour ça qu'il manque 4 heures, c'est parce que j'ai pas parlé de mon groupe première. Quand je fais des activités espagnoles, je suis toute seule en espagnol. Quand les emplois du temps le permettent, mais cette année ça n'a pas été possible, je suis avec une collègue d'espagnol et on est deux profs d'espagnol avec un groupe de terminale. Ça nous permet d'étoffer un peu notre groupe de terminale et avoir un truc beaucoup plus agréable pour elle, pour moi et pour les élèves. Donc ça, quand on peut le faire, on le fait. Cette année, c'est pas possible. Par contre, j'ai un groupe de première dont je suis prof référente. Je les ai en espagnol aussi, mais je les ai 4 heures par semaine. C'est sur cette plage-là qu'on a appelé le thème. On décide d'un thème qu'on tient entre deux vacances. Donc là, on va attaquer une thématique autour de la notion de maître et de valet. Et là-dedans, on va faire du Don Juan parce qu'ils vont le faire en français. On fait du Don Quichotte parce que moi, j'adore. Et que je suis prof d'espagnol, donc pour le coup, voilà, mon filtre prof d'espagnol va intervenir. Et là, je travaille en binôme avec un prof de lettres. Et c'est dans ces 4 heures hebdomadaires-là aussi qu'on va faire ce qui s'appelle les travaux personnels encadrés au lycée, c'est-à-dire un travail de recherche en groupe qu'ils font et qui est évalué pour le bac. Voilà.
Ouf.
Moi, je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire dans le débat sur les langues, non ? Après avoir enseigné 40 ans l'espagnol aussi. Mais ce n'est pas une question. Je voudrais dire simplement que moi, je suis séduit par ce système-là, dont je partage les principes depuis toujours, mais que je n'ai jamais réussi à mettre vraiment, évidemment, vraiment en pratique dans l'exercice, disons, de la profession. Et que je suis sûr, mais ça, je suis sûr, que par ce système-là, et le mot système est maladroit, on forme des gens. Ce que ne fait pas l'école telle qu'elle fonctionne. Je pourrais développer, mais je maintiendrai là.
La souplesse que vous avez, c'est quelque chose de formidable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une chance inespérée pour tout le monde, pour tous les enseignants qui ont enseigné. J'ai pas enseigné beaucoup, mais enfin, le peu que j'ai enseigné, moi, justement, là où j'ai réussi, c'était dans l'interdisciplinarité. C'est-à-dire quand on arrive à fédérer des gens autour d'un thème, c'était formidable. Quand on arrive à le faire, c'était magnifique.
Madame,
et après, on
ira là-bas.
Du coup, quand tu disais que tu n'arrivais pas à récupérer des écrits de tes élèves, ça me renvoie à la pratique pédagogique du quotidien. Et donc là, quelque part, je me dis, comment tu organises quoi, le travail pédagogique, ça marche comment, et comment tu pourrais les amener à écrire, et enfin, ça marche comment, ça s'embraye comment de l'un à l'autre pour que ça fonctionne?
Eh bien, c'est une question... j'ai hélas pas beaucoup de réponses. Ça m'aiderait beaucoup d'en avoir. J'ai l'impression de faire des choses qui, on va dire, philosophiquement, me plaisent pas. C'est-à-dire que, finalement, avec les élèves qui viennent travailler, parce que, comme on a dit, les activités sont en libre fréquentation, donc ils viennent pas tous, je m'adapte beaucoup à ce que chacun vient chercher. Ce qui veut dire que ça peut être très disparate dans un groupe de 5 élèves. Avec moi, j'ai envie de ça, et puis il y a des élèves qui arrivent avec des « moi, je veux de la grammaire », on en parlait tout à l'heure. « Je voudrais de l'imparfait subjonctif. » Je refuse. Non, et ça pose... Alors moi, ça pose des questions. J'ai pas résolu ça, hein. Ça fait donc 10 ans, et je bloque toujours sur ces trucs-là, de rapport entre l'individuel et le collectif sur le projet qu'on s'est fixé. Et alors, la richesse, c'est qu'on arrive à mettre ça sur le tapis avec les élèves et à en discuter avec eux. Et la pauvreté, c'est que l'intérêt individuel est là, tapis dans l'ombre, et qu'il a tôt fait de surgir, en particulier quand il s'agit de présenter un examen. C'est pour ça que ma pratique pédagogique, je l'ai trouvée beaucoup plus intéressante dès qu'on était sur du pluridisciplinaire, sur autre chose que ma matière.
Oui, oui.
Et sinon, infiltrer de ma matière dans les autres activités que je fais. Mmh. Tous mes gros mots en commission budget sont entièrement en espagnol. Voilà. Il y en a. Il y en a. Non.
Lâche-toi. Dégame, dégame.
Non, je veux dire qu'on peut. Voilà, les espaces, ils sont là où on les trouve. Et mon. J'ai l'impression, et c'est une des limites du lycée, hein, pour moi, l'aspect purement scolaire. Mais dans ce que j'y ai vu et dans ce que j'y ai vécu, c'est pas cet aspect-là qui est fondamental pour moi. C'est-à-dire qu'en postulant au lycée, en me disant que j'allais y être, donc à plein temps et sur une longue durée, je me suis dit, ok, donc ça veut dire que tu mets l'espagnol de côté. Mmh. Voilà, ouais. C'est très clair. Et puis finalement, avec le temps, je me rends compte que j'arrive à les gros mots, par exemple, j'aurais pas l'occasion tellement de les recaser. La commission budget, c'est pas mal. Voilà, on peut faire de la nourriture, la nourriture, les repas, ça marche super bien. Et les recettes et les machins, et voilà. Et la culture de chacun qui vient dans ce truc-là, c'est.
Vous êtes au coin, vous n'êtes pas puni pour autant.
Merci. Seulement, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par un monsieur là-bas par rapport. Qui disait que la meilleure façon, avant d'apprendre une langue étrangère, il faut d'abord connaître sa propre langue. Moi, je voulais rajouter que pour apprendre une langue étrangère, il faut d'abord être ouvert au monde et sans préjugés. Mmh. Maintenant, ma question, est-ce que vous, en tant que prof d'espagnol, vous parlez exclusivement espagnol aux élèves? Non.
Pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout, du tout.
Non, entendons-nous bien, ça m'arrive.
Quelques mots.
Si vous voulez une bonne expérience, la meilleure façon d'apprendre une autre langue, c'est tomber amoureux.
Ah. Ah. Ça, c'est bien, c'est...
Non mais je passe beaucoup plus par le français que ce que je faisais dans un, mais c'est-à-dire dans un lycée traditionnel, j'ai mes élèves trois fois par semaine, ils sont tous là, ils ont 20% fait leur travail que je leur demandais, très souvent je les ai vus la veille. Et donc c'est encore frais, ils ont, je sais pas, appris un mot, c'est beaucoup plus facile là d'enchaîner avec. Le problème au lycée sur les langues vivantes, dans l'exercice précis du cours d'espagnol, c'est qu'on se voit une fois par semaine. Et que donc, entre deux vacances, on se voit 7 fois. Bon, s'il y a une grève, on se voit 6 fois. En ce moment, on est presque bilingue, mais pas tout à fait. Non, et ça veut dire que ce rythme qu'on a, nous, hebdomadaire au lycée, rend les choses vraiment compliquées. C'est pour ça que si je peux caser de l'espagnol à un autre moment qu'à ce moment-là, ben, je le fais. Que ce soit du culturel, que ce soit des expressions parlées, que ce soit même des gros mots, ils adorent, hein. Eh bien, je le fais.
Ah, spécialiste.
Non, se servir des espaces disponibles avec des élèves qui, souvent, sur des espaces qui s'appellent que espagnol, n'y mettent pas les pieds. Parce que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas fait de langue vivante. Parce qu'ils ont fait d'autres choses, ils ont été déscolarisés. De toute façon, l'espagnol, c'est naze. Et ils arrivent avec leurs a priori, et leurs... voilà, et sur, franchement, ce cours-là d'espagnol, c'est dur. Et les élèves qui viennent, et même ceux qui sont réguliers avec un travail, on va dire, suivi, même pour cela, c'est super compliqué. Et donc, moi, je me suis adaptée. C'est-à-dire que je mets beaucoup de culturel. Je dis, ok, on va pas devenir bilingue tous là d'ici la fin de l'année. Mais si on peut s'ouvrir un peu sur ce qui s'est passé là au Mexique l'an dernier, si on peut réfléchir un peu sur, là on va faire du, avec les secondes, on va voir un peu ce qui s'est passé avec le mouvement des indignés, et on va faire une comparaison avec un autre prof sur ce qui se construit avec la nuit debout. Et ben, ils parleront peut-être pas espagnol, mais moi ça m'intéresse qu'ils aient conscience qu'il y a un pays qui est là à notre porte et qu'il s'y passe des choses aussi. Voilà. Mais je fais pas. Si j'étais avec un inspecteur, il dirait que je fais pas bien mon travail, c'est sûr. C'est sûr.
Ah, pardon.
Ça fait longtemps qu'elle demande.
Ah, je l'ai pas.
Oui, je trouve intéressant, c'est le côté transversal et pluridisciplinaire des profs qui se mettent ensemble pour donner du sens à l'apprentissage ou à quelque chose. Mais dans une école normale, pas autogérée. Est-ce que c'est impossible de faire ça?
Non.
J'ai subi l'école toute la scolarité de mon enfant. Il a 18 ans aujourd'hui. Jamais.
Oui, mais ça se
fait. Il faut qu'il y ait une volonté dans l'établissement. Déjà. Du principal.
Donc ça ne vient pas de l'institution. Oui, c'est pas l'institution qui empêche.
Si,
j'ai dit ça.
Si. Alors je vais juste répondre quand même si l'institution empêche. Parce que quand on demande à un prof de venir faire ses 18 heures de cours devant un groupe et qu'il est tout seul devant les groupes qui vont se succéder, les espaces pour qu'il construise, en dehors de ces 18 heures-là de présence dans l'établissement, qu'il construise avec un collègue sur un thème qui ne sera pas nanana et qu'il trouve le temps de le réaliser avec ses élèves, et bien cet espace-là de concertation et de construction, il faudrait que chacun soit volontaire pour le trouver. Dès qu'on va intégrer ça dans l'emploi du temps, et bien on va ouvrir des portes. Peut-être qu'il y en a qui seront des tirs au flanc, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas profiter de cet espace-là. Mais dès qu'on va avoir concrètement des heures dédiées à la construction commune, à un travail d'équipe. Oui. Mais là, jusqu'ici, c'est du volontariat.
Oui.
Et sauf sur l'espace des TPE au lycée.
Et souvent, les profs, ils ne sont pas les deux ensemble dans la classe.
Ah ben, mais ça c'est de la bourgeoisie incroyable.
Non, mais bien sûr. Ma fille, elle a fait ça, mais c'était art plastique et je sais plus, et français.
Oui, mais vas-y.
Mais c'était un cours d'art plastique et un cours de français, mais il n'y avait pas les deux profs dans la même classe.
Non, mais bien sûr. Enfin, c'est
un... Non, sinon c'est du bénévolat. On y va si on a une heure libre, on peut aller avec.
Ouais, c'est du luxe, c'est sûr.
Quelquefois, on a toujours cours quand l'autre n'a pas cours et vice versa, et on n'arrive pas à se rencontrer.
Moi, je voulais revenir un peu en arrière par rapport aux langues. Avant-hier, je roule beaucoup, sur France Inter, tous les après-midi, à partir de quelle heure, ils disaient, avec la mondialisation, n'en déplaise à nous, à vous, à tout le monde, à l'heure actuelle, pour avoir un entretien d'embauche, on ne parle pas d'une embauche, il faut être bilingue. Hein, avoir, ne serait-ce que pour avoir l'entretien d'embauche. Hein. Donc on va sur du bilingue, uniquement et que du bilingue. Voilà, donc les langues étrangères, c'est primordial. Hein.
Corrie, allez Corrie.
Moi je voulais savoir,
on
n'était pas là au début, donc peut-être ça a été évoqué, mais comment ça a démarré ce projet? Là, vous êtes depuis 10 ans, je crois.
Trop tard. Eh bien, au fond, qu'est-ce que je viens de dire?
82.
Tu viens de très bien.
C'est grâce à Jean.
Moi non plus.
Ah, grâce à Jean.
Jean.
Alors, c'est au tout début du premier septennat Mitterrand et un ministère de l'éducation nationale progressiste qui a donner un peu d'espace. Dans cet espace-là, ont pu s'engouffrer des équipes, il y en a qui ont été recalées aussi, hein, mais des équipes qui avaient déjà travaillé sur des projets en amont, et donc qui arrivaient avec des projets réfléchis, pensés, et sur ces projets-là proposés, il y en a 4 qui ont eu l'autorisation d'ouvrir. Donc un lycée expérimental à Saint-Nazaire, qui est autogéré aussi, le lycée autogéré de Paris, le collège-lycée expérimental des Rouvilles Saint-Clair, on est dans le Calvados,
oui.
Et qui existe encore aujourd'hui, et
là, il doit...
le, et Oléron. Oléron. Mais qui ne fonctionne pas en autogestion. Oléron ? Ben, ils ont des relations avec leur hiérarchie qui sont de plus en plus contraignantes. Le travail en équipe n'est pas facile.
Du coup, ça a été développé pour faire comme un laboratoire, un truc comme ça. Et ils se sont arrêtés à ces établissements. Pourquoi pas avoir utilisé ce modèle ?
Alors, les fenêtres d'ouverture au ministère sont rarissimes. Il y en a peut-être une. On verra, l'avenir nous le dira. Peut-être qu'il y en a eu une au début de Vincent Payon, c'est possible. Mais elle a été consacrée sur le primaire, sur le premier degré. C'est que c'est rarissime et que c'est quand même... Enfin, je parlais de cheval de Troie tout à l'heure, c'est quand même des modèles qui sont subversifs, vraiment. Profondément différents de ce qui se fait et qui questionnent beaucoup l'immense majorité des établissements. Donc, dans quelle mesure un système qui est l'énorme éducation nationale française tolère, finance ?
Voilà, c'est qui est bizarre, parce que l'éducation nationale, c'est de faire arriver 80%, voire 90% au bac, alors que vous, le bac, ce n'est pas votre objectif premier. Quoi.
Oui, le problème, ouais, il est là. On est 250 voilà. élèves.
Oui, mais bon, c'est un problème de pourcentage.
Ils ne font pas trop chuter, c'est un cadre.
Non.
On va y aller. Oui, qui est-ce qui...
Non, mais moi, j'avais rien à dire. Mais
elle m'a le dit. J'ai fait des efforts avant que vous ayez la parole.
Ça va tomber comme un cheveu sur la soupe. Parce que c'était pour rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce qu'on travaille dans les lycées traditionnels à plusieurs disciplines ? Ben oui, ça nous est imposé dans les enseignements d'exploration en seconde. Alors certains enseignements d'exploration, moi je participe à l'un d'entre eux qui s'appelle MPS, méthode et pratiques scientifiques, où on est trois intervenants, maths, physique, SVT, et on doit, avec un groupe d'élèves, on doit travailler à trois, dans ces trois disciplines, pour essayer de mener un projet commun, qui est porteur, mais ça a une énorme contrainte, c'est que, par exemple, moi je dois intervenir, je suis payée en gros pour intervenir une demi-heure semaine. En réalité, on voit les élèves sur un créneau d'une heure et demie, donc en théorie, on devrait intervenir une fois, enfin chacun à tour de rôle, une fois toutes les trois semaines, vous suivez parfaitement. Et en réalité, concrètement, il faut, pour mener à bien un projet, il faut qu'on se voit, c'est ce que vous disiez. Donc ça veut dire un hasard d'emploi du temps a fait que les trois collègues, nous sommes libres le lundi après-midi, on passe 2 à 3 heures quasiment tous les lundis après-midi pour préparer ce projet, pour qu'il y ait une cohérence. Et souvent, alors qu'on devrait être là qu'une fois toutes les 3 semaines, on y a 2, voire 3 pour 20 élèves. Mais c'est du bénévolat total. Et pour que ça marche, non mais sérieusement, ce genre de choses qui nous sont imposées, parce que voilà, ils ont décidé quelque part que c'était super chouette, oui, mais les moyens ne sont absolument pas donnés pour que ça marche. Et nous, on tient à ce que ça marche, et en fait, on y met, c'est du bénévolat total. Quoi. Voilà, alors on a fait des choses extrêmement variées, effectivement, et en plus, il faut trouver que chaque matière est de son compte. Donc c'est très compliqué. Voilà. En théorie, c'est très joli, mais dans la pratique, pour nous, c'est très, très difficile.
Non, c'est...
Oui. Oui, par rapport à ce qui est dit sur l'éducation nationale et ce qu'on peut faire ou pas dans l'éducation nationale. L'un des gros problèmes, me semble-t-il, de l'éducation nationale, c'est que d'abord les enseignants sont des gens qui ont réussi à l'école et qui ont réussi par un travail individuel et qui ont été formés de cette manière-là. Et donc du coup, retravailler le collectif, c'est un peu difficile. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour le faire. C'est-à-dire, comme madame vient de l'expliquer, moi, j'enseignais 2 ans, et on avait à des 3e, 4e technologiques, et on avait un espace qui s'appelait Gérex. Et cet espace, c'était en gros ce que vous développez, ce qui existait. Et en fait, ça fonctionnait très bien. Mais on avait 1h30 dans notre emploi du temps pour le faire. Le problème, c'est que développer la transversalité, développer du collectif, à partir du moment... où on n'a pas d'emploi du temps pour le faire, parce que la question des copies, ce n'est pas une question anodine. Je peux vous dire que quand vous devez corriger des copies tous les jours, que vous devez préparer les cours tous les jours, C'est un boulot monstrueux. Et tous ceux qui... Moi, je ne suis plus enseignant et je sais très bien pourquoi je ne le suis plus. Je peux vous dire que c'est un boulot tuant. Et quand j'entends dire ouais, il ne dort pas beaucoup d'heures, c'est vraiment, c'est comme l'iceberg, quoi. On voit les 10%, on se dit ah, bah, quand même, il n'y a pas beaucoup de glace, quoi. Mais quand vous regardez en dessous, il y en a un gros paquet. Alors, je pense que franchement, le gros problème de l'éducation nationale, c'est de ne pas laisser d'espace pour ces expériences-là. Et en plus, pour reprendre aussi la question d'une différence nord-sud, il y a quand même, si les expériences fonctionnent en Finlande, au Danemark, en Allemagne, etc., c'est que dans la société, il y a une autogestion qui est déjà en place. C'est-à-dire que vous verrez jamais un Allemand, enfin, ça va peut-être changer, mais la question du passage piéton, par exemple, c'est, vous ne verrez pas un Allemand traverser sur une route, il n'y aurait pas un passage piéton. Parce que la vision du passage piéton est différente. Ça se vit pas de la même manière. Et c'est vrai que je pense que l'autogestion est plus facile à mettre en place dans des sociétés qui ont déjà une certaine idée du collectif que dans des sociétés individualistes comme les nôtres.
On peut discuter sur l'autogestion. Hein.
Oui, parce que... Oui. Avec tous les défauts que ça. Voilà.
Mais c'est par rapport à... Je voulais rebondir sur cette histoire d'emploi du temps et de projets, entre guillemets, pédagogiques pensés d'en haut, parce que de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement pervers. C'est-à-dire qu'on crée soi-disant des ouvertures, on charge des programmes, on demande aux enseignants de mettre en place des choses, en sachant pertinemment qu'on ne leur donnera pas les moyens de le faire. Parce que s'il y a un projet pédagogique qui est pensé d'en haut, l'emploi du temps, le principal, il le fait l'été. Hein, ou il le fait en début, voilà. Donc, normalement, dans son emploi du temps, il a prévu que les profs en question, ils puissent se rencontrer. Or...
Oui, mais moi, je pense que ça, c'est à tous les niveaux professionnels. On se met toujours en question. Dans le privé, il y a de nouvelles technologies qui arrivent. Vous êtes obligé de vous former pour... aussi bien chez nous, le privé, que chez vous, la plupart des enseignants, on est obligé d'en passer par là, sinon on arrête tout, quoi. Je peux vous dire que dans le privé, il y a des gens qui sont réticents aux nouvelles technologies. Ils le vivent très mal, mais est-ce qu'on a le choix,
on parle de projets donc, qui sont décidés par un ministère. Mais c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Et que, dans les établissements.
Alors, c'est le principe de la quadrature du cercle. C'est pas facile à comprendre.
Ouais, non.
J'arrive pas. Ouais.
Si quelqu'un a fait grève, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas juste pour perdre une journée.
Quelqu'un qui a pas beaucoup parlé ce soir.
Non, je change complètement de sujet, je reviens à vos réunions hebdomadaires, c'est ça, où vous parlez, ou c'est mensuel, je ne me rappelle plus le rythme des réunions où on peut parler de tout.
Politique.
Hebdomadaire. Il y a un ordre du jour où c'est libre, comment ça se passe?
Alors,
attends, j'ai une autre question. Est-ce que les élèves peuvent dire à ce moment-là, est-ce que c'est l'usage de dire aussi, de critiquer, de dire voilà, ça ne va pas, là on aimerait ci, on aimerait ça, enfin, comment ça se passe, qui décide et comment est fait l'ordre du jour, et est-ce que tout sujet est abordé?
Alors, tout sujet est abordé, ça c'est sûr. Vraiment, en pratique, vraiment. L'ordre du jour, alors là, on est un petit peu bureaucratique. Dans chacun de ces groupes-là, il y a deux délégués, élèves, qui se réunissent. Donc là, c'est le mardi, il est 14h, on va en groupe de base. On y reste pendant environ 2h, et à la fin, on fait le ménage. Le jeudi matin, les deux délégués vont se retrouver dans une réunion qui s'appelle la réunion générale de gestion, avec tous leurs délégués, leurs potes délégués, et vont remonter les résultats des votes, qui vont être comptabilisés, et c'est là qu'on va établir un ordre du jour pour la fois d'après, en fonction de ce qui aura été discuté dans chacun des groupes, qui va remonter, et qui va être, on va dire, redigéré par ces délégués-là, et c'est à partir de cette digestion-là, il y a aussi deux délégués profs dans cette réunion. La présence d'un prof aide à l'aspect bureaucratique. Non mais par exemple, au fait, t'as rédigé l'ordre du jour. Ah oui, c'est vrai, j'y vais. Voilà. À faire un compte rendu de cette réunion-là, qui sera discuté dans le groupe de base suivant. Donc il y a cet aller-retour entre une réunion où tous les délégués sont présents et les délégués qui reviennent dans leur groupe de base la semaine suivante en disant « Alors j'ai donné le point de vue dont on avait discuté longuement, mais ça a été... » critiquer vertement, et c'est un échange comme ça d'aller-retour entre des délégués et des groupes de base. On a bien sûr la possibilité, sur cette question-là, de est-ce qu'on peut discuter de tout. N'importe qui peut demander la tenue d'une assemblée générale sur un problème qui se pose, sur, je sais pas, un vol de portable, sur, voilà. On peut demander une AG, et là, c'est l'assurance que toute la communauté entende en même temps la même chose. Faut pas avoir ces allers-retours qui parfois sont un peu usants, ça se déforme, ça fait un peu téléphone arabe, un peu... Bon. Voilà, sinon on a la possibilité de l'Assemblée Générale, mais c'est réellement la parole... pour le coup, on traite de tout.
Il me semble qu'on n'a pas abordé l'admission de ces élèves, parce qu'en fait, il y a une grosse demande. Comment les critères d'admission ?
Alors, il y a eu des tâtonnements successifs pendant l'histoire du lycée qui ont donné des choses assez farfelues, des années où il fallait être les premiers. Alors, les gens commençaient à faire la queue devant le lycée la veille au soir, enfin bref, des choses un peu folles. Il y a eu des tirages au sort, en me disant, ok, donc tu t'inscris, hop, et à la fin, on tire au sort le nombre de places qu'on a. Et actuellement, on n'était pas très satisfaits. Enfin, là, c'était avant moi. Et actuellement, le système qui est établi, c'est une candidature spontanée. On assiste forcément à une première réunion d'information et de présentation du lycée, à laquelle donc il faut assister. Et puis, on peut poser les questions aux profs, aux élèves dans cette réunion, et se rendre compte un peu de ce que c'est que le lycée.
Tous les candidats réunis ?
Tous les candidats doivent passer par une réunion comme ça. Il y en a une par mois pendant l'année. La dernière aura lieu fin mai. Ouais. À la fin de cette réunion-là, si on est toujours intéressé, on laisse les coordonnées. On convoque les élèves intéressés à... Alors, j'explique le système qui avait lieu l'an dernier. On est en train d'en discuter avec les élèves cette année, donc il peut y avoir des petites modifications, mais pour l'an dernier, c'était ça. Donc... On convoque ces candidats-là à une demi-journée de tests écrits, qui sont pas du tout des tests de niveau, mais qui sont plutôt de nature... Alors, on n'arrive pas du tout à travailler avec des gens qui sont dans des grosses difficultés, type analphabétisme, type... Voilà, ça, on ne sait pas le faire. Dyslexie, on y arrive bien, mais analphabétisme, on n'arrive pas du tout. Dyslexie, on est pas mal même. On essaye aussi d'éviter, il y a des gens qui arrivent avec des gros soucis de santé, de psychiatrique, voilà. Avec cette demi-journée de tests, on arrive à, on va dire, dessiner un peu, c'est pas du tout, je répète, des tests de niveau, hein, le niveau scolaire, c'est pas du tout notre entrée principale, c'est même pas tout notre entrée du tout. Après cette demi-journée-là, certains, donc très peu, vont être écartés. Les autres, on les convoque à 2 jours de stage au lycée. Alors, la correction des tests se fait que par les profs. Les choix, ces choix initiaux-là sont que par les profs. Et ensuite, les tests intègrent un dossier. Et là, on partage le travail avec les élèves. Donc, je vais être en groupe, moi, avec un autre collègue et 6 élèves actuels. Et c'est avec ce groupe de 8 personnes-là qu'on va construire 2 jours de stage au lycée pour des élèves qui veulent venir. L'idée, c'est d'essayer de montrer comment fonctionne le lycée. Et d'essayer d'organiser un dialogue, de voir un peu comment se comportent les élèves en groupe. Voilà. 2 jours de stage. À la fin de ces 2 jours de stage, on en retient certains pour un entretien individuel. Là, on va plus questionner le projet de formation, pourquoi le lycée autogéré. Voilà. Et à la fin de cet entretien individuel, on prend notre décision sur qui sera admis en septembre. Alors c'est un travail qui est super difficile avec cette impression qu'on a de pouvoir dire, alors c'est difficile pour nos élèves aussi, hein, et de pouvoir dire oui ou non, l'impression qu'on se trompe, qu'il y a des élèves qui sont plus doués que d'autres pour réussir ces épreuves là et que finalement voilà, et ces cas d'élèves qui étaient vraiment sur les 2 jours de stage, l'entretien, ça se traîne, oui mais pourquoi non, oui c'est vrai, on n'a pas tellement d'arguments contre, alors d'accord, et une fois qu'on a inscrit l'élève, on se rend compte d'une trajectoire super dans toutes les activités, un réel épanouissement, voilà. J'ai aucune réponse définitive sur ce qui fait qu'on se trompe, ce qui fait qu'on réussit. Les élèves changent en plus.
Non.
Et on est en juin et il se passe ça, et ils tiennent ce discours et hop. Et on arrive au mois de septembre et les choses ont changé, les hormones, enfin, pas les détails. Non, c'est voilà, mais c'est le métier. Enfin, ça, c'est pas spécifique au lycée autogéré. On travaille avec des humains et que toutes ces choses-là sont très immatérielles, quoi. Et c'est un moment de l'année que j'aime pas du tout.
De toute façon, il y a plus.
J'aime pas du tout.
Il y a plus de demandes que de places, non?
Oui, c'est pour ça que j'aime pas du tout.
Ça a été dit et répété.
Sinon, c'est quelque chose de beaucoup plus possible.
Non, mais c'est-à-dire que c'est le problème, c'est bien de dire non. Le problème, c'est bien de dire non. Et d'avoir des gens qui sont extrêmement motivés et qui ont rempli tous les critères qu'on demandait, qui sont allés au bout de la démarche et qui sont là et qui ont envie d'être au lycée, et bien pourtant... Chez ces gens-là, je vais devoir dire non à 1 sur 2.
Est-ce que vous les incitez à écrire
On fait plein de choses.
Au ministère, mais... pour dire
qu'ils
n'ont pas de place.
Au ministère, il y en a rien à suivre.
Non, on ne les incite pas, peut-être pas assez.
Tu parlais d'un engagement. C'est un engagement sous forme de contrat, en fait, quelque part. Contrat, je ne sais pas si c'est moral. Ou... est-ce qu'il y a des abandons, par exemple, en cours d'année ou, parce que, du coup, est-ce que vous faites un recrutement en cours d'année ou vous allez finir avec la moitié de l'effectif initial? Comment ça marche?
Alors, il y a la moitié. Alors, arriver au lycée, c'est facile quand c'est en septembre de la seconde. Parce qu'on intègre un groupe, parce qu'on a, on commence au même moment tous la même aventure, on se répartit dans les activités, on rentre dans un projet du jeudi après-midi. Donc c'est facile quand on est en septembre de la seconde. Quand on est en septembre de la première, c'est un peu plus compliqué, parce que ça, l'emploi du temps va laisser moins de liberté pour des activités, plus d'ateliers, de pratiques, voilà. Mais c'est encore possible, et quand c'est en terminale, c'est vraiment... très compliqué parce que pour le coup l'emploi du temps se dirige vers une préparation de l'examen beaucoup plus et que toute la partie intéressante du lycée on n'en a pas profité avant et qu'il y a un truc de frustration qui rend très difficile d'arriver au lycée en terminale. Alors ensuite sur les désistements en cours d'année, il n'y en a pas tant que ça des officiels, des gens qui disent ok, donc j'ai essayé ça, voilà, là mon engagement je le romps parce que je fais d'autres choses, parce que ça va pas, parce que ça c'est très peu, c'est rare. Les élèves au lycée, il y en a très très peu qui ne font aucune activité au lycée. Il y en a qui font des activités scolaires dans leur idée de préparer un examen. Il y en a qui font de la musique à fond. Un cours de musique théorique de terminale, deux ateliers de musique, un projet musique, une pratique personnelle en permanence dans la salle musique. Et ils vont faire ça à fond. Il y en a, voilà, chacun va avoir sa manière d'intégrer les activités du lycée. Pour être désinscrit du lycée, il faut pas y être, quoi. Et ça, c'est rare. Enfin, je veux dire, rarissime. Vraiment. L'engagement qu'on demande sur la réunion politique du mardi, c'est celui-là qui finalement pour certains est compliqué à tenir, parce qu'autant la musique ça a du sens, autant laver les chiottes.
Ça va quoi.
Et bien cet engagement politique-là, il est questionné avec des élèves et le tuteur, et si jamais t'es absent pendant 3 fois ce truc-là obligatoire, t'es convoqué avec 2 élèves et ton tuteur, tu discutes, tu dis attends, tu te rappelles que tu voulais être élève au lycée et que ça fait partie des engagements et que voilà. Donc cet engagement-là, on l'aide à tenir. Mais ça veut dire 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, ça se fait. Peut-être pas avec plaisir, peut-être pas, voilà, peut-être pas, mais des démissions en cours de lycée, c'est rare. Vraiment. Peut-être qu'il y en a eu une cette année, quoi. Non. Et donc en cours d'année, c'est compliqué d'arriver, on essaye d'éviter les recrutements. Mais ça nous arrive aussi, et juste après c'est l'aspect un peu plus militant, en particulier avec des partenariats Réseau Éducation Sans Frontières sur des élèves qui ont besoin d'être scolarisés pour ne pas quitter le territoire français, enfin voilà, des choses sordides. Non, merci, ça va.
Par rapport aux questions, là, il faut passer quand même l'heure. Oui. Et donc, du coup, on va peut-être prendre une ou deux questions de plus, mais quand même. Je passe.
Donc il y a trois lycées autogérés et il y a un collège-lycée. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des retours par rapport au fonctionnement. Parce que bon, lycée, ils ont quand même 15, 16, 17 ans. Collège, ils arrivent, ils ont 11, 12, 13, 14. Donc c'est quand même pas le même public. C'est des ados qui ont d'autres problématiques. Quoi. Et du coup, savoir si vous aviez des retours sur le fonctionnement de l'autogestion. Justement, est-ce qu'il y a autant d'autogestion qui est faite en collège? Est-ce qu'il y a des élèves de collège qui se retrouvent avec des élèves de seconde ou de première sur des ateliers? Alors, voilà, j'étais curieuse.
On a des retours, on est même copains. Voilà. J'ai laissé un papier là-bas avec une. Ça s'appelle une sitographie. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des sites internet.
Oui, pourquoi?
Une d'accord. Fédération qui s'appelle la Fédération des
établissements.
La FESPI, la Fédération des établissements scolaires publics innovants. Vous pouvez aller voir leur site, c'est très bien fait. Chaque établissement qui appartient à cette fédération a une page où il peut se présenter. Voilà, la nôtre est un peu morte actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe en commission informatique. Mais... et c'est aussi des occasions quand on se croise, notamment au sein de cette fédération, qui n'est pas du tout centrée autogestion, hein, qui est centrée innovation, éducation nationale. Et ben, c'est aussi l'occasion, bien sûr, de partager nos... Je l'ai mis, non ? L'occasion de partager nos expériences et nos questionnements beaucoup. Et finalement, nos questionnements beaucoup. Quelles réponses nous on apporte à tel questionnement, d'autres ont d'autres réponses, et on échange aussi pas mal nos élèves. En disant, nous, dans notre structure, tel élève, ça a l'air compliqué parce qu'il y a ça et ça, va voir plutôt là-bas. Et hop, là-bas, peut-être que on est copains.
Et du coup, quel retour vous avez par rapport à ce fonctionnement en collège?
Ah bah ils sont pas du tout en autogestion.
Ouais, il n'y a pas d'autogestion qui est faite en collège.
Mais l'autogestion, il pourrait très bien être en autogestion, en équipe. C'est-à-dire se priver d'un chef d'établissement et décider ensemble de comment on fonctionne. Et ce n'est pas les choix qui ont été faits au départ de cette expérience-là. Donc, ils se sont ouverts sur d'autres trucs. Par contre, travail en équipe à fond, interdisciplinarité à fond. Et ce que tu disais qui est super intéressant, c'est-à-dire décloisonner le 6e, 5e, 4e, 3e, seconde avec des activités transversales qui réunissent...
Une question courte ici et une dernière de ce côté.
Je vais répondre.
Oui, vas-y, oui.
Mais c'est pas automatiquement que des jeunes, des collégiens, ne sont pas capables de faire de l'autogestion. Il y a des écoles de cette manière en Allemagne, en Freiburg, et ils sont tout à fait capables. C'est pas une question d'âge.
Bien sûr. Et puis, plus on commence jeune, plus c'est facile. Hein. Y a le livre aussi, je vais même pas passer, tu vois, Libres enfants de Summerhill, qui est donc une expérience.
50 ans.
Voilà, voilà. Donc, bien sûr, plus c'est petit, plus c'est facile.
Je voulais juste savoir, c'est fait de Karine, est-ce qu'il y avait redoublement dans votre lycée? Parce qu'il y avait
des
classes classiques. Alors, c'est pas classique, mais il y a du classique quand même.
Alors, il y a des redoublements. C'est-à-dire que nos élèves veulent redoubler.
Ah, ouais,
mais non, mais c'est complètement con. Parce que, alors, voilà. C'est aussi un nid douillet, le lycée. Et c'est aussi un nid douillet et confortable où on peut prendre un temps. Et donc, c'est aussi ça. Et parfois, il y en a qui ont besoin de ça, donc il n'y a pas de souci. Nous, on n'est pas du tout éjectants. Mais par contre, le principe du redoublement, il n'y a pas de mystère. Au lycée, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire qu'on sait, le redoublement, ça ne fonctionne pas. Et chaque année, j'ai discuté encore en Andalousie avec une élève qui voulait, Mélanie, qui veut que j'ai dans mon groupe première, donc avec laquelle je travaille beaucoup pendant la semaine, que je connais bien, et l'échange est facile, donc ça c'est. On n'a pas parlé trop des rapports prof-élève, mais c'est vrai que c'est sûr, c'est différent. Et donc il y a beaucoup de franchise et beaucoup de facilité de communication. Elle veut redoubler sa première, et moi je lui dis que c'est une connerie, et elle n'en démordra pas. Et je sais qu'elle va redoubler sa première, et j'espère qu'elle va faire mentir toutes les statistiques, et je suis sûre que son redoublement, ça va être un truc tout pourri. Je suis sûre.
mais elle veut le faire.
Mais quelle est sa motivation pour redoubler ?
Eh bien, réussir une année de première. Oui. Mais oui, mais pourquoi pas ? Mais bien sûr, pourquoi pas ? Donc elle va le faire. Elle va le faire parce que donc c'est notre principe. Voilà, c'est les élèves qui choisissent leur parcours et c'est évidemment elle qui aura le dernier mot sur des choix qui concernent sa scolarité. Donc moi, j'ai beau lui dire, je fous d'un tas de trucs, ça ne marchera pas. Elle va redoubler de sa première et j'espère que ça va bien se passer. Hein. Mais je ne crois pas que ce soit une super bonne idée.
Ça ne pourra pas être pire. Allez, la dernière question.
Elle est là, la dernière question.
Moi, je voulais savoir si, en dehors du réseau là, dont vous avez parlé, donc si vous appartenez à un réseau, disons, d'éducation alternative, si vous participez à des formations, à des rencontres, à des forums, à des...
Alors, dans le cadre de ce réseau-là, on fait ça beaucoup et c'est super intéressant. Dans cette fédération des établissements scolaires publics innovants. On le fait beaucoup en échange. Et puis ensuite, on a des partenariats avec des établissements européens. Donc évidemment, Europe du Nord, voilà. Un peu d'Angleterre. On a fait très récemment, mais là, c'était plutôt orienté vers nos élèves, une semaine internationale où on a reçu des délégations, une délégation de Pologne, des Pays-Bas... D'Angleterre, il y avait une quinzaine d'établissements, et puis de France aussi, hein, il y avait des lycéens d'Oléron, il y avait des lycéens de Saint-Nazaire qui étaient là, et on a fait des activités pendant une semaine, des ateliers. Alors là, on a fait des programmes en langue vivante énormes, hein, ça c'est sûr. Enfin, en langue vivante, je veux dire en anglais.
En anglais
pour ce moment. Ouais. Et voilà, mais sur l'aspect formel, c'est plutôt dans la FESPI donc, qu'on a, nous, des contacts et des échanges théoriques, pédagogiques, super intéressants.
Parce qu'en dehors de l'éducation publique nationale, il y a tout un réseau qui existe en France depuis un moment.
Oui, alors parce que nous, on est très intéressés par le côté public.
Dommage qu'il n'y ait pas de...
Oui.
On a des ponts entre établissements publics. Non, mais j'entends la question. Mais moi, c'est vrai qu'après, moi, le côté privé, enfin, voilà, il y a des...
Non,
mais
Steiner,
il y a plein
d'élèves. Il y a
l'école nouvelle. Steiner, mais bien sûr, Steiner, il y a plein d'élèves de chez nous qui viennent de parcours dans le privé avant, puisque si on veut être dans des parcours un peu décalés dans l'éducation nationale, eh ben, évidemment qu'il faut être dans le privé. On parlait de Montessori, on parlait d'écoles qui ne sont que accessibles par le privé. Et le public s'interdit ces richesses-là, donc ça c'est sûr. Hein. Nous, on est public et nos partenariats sur du secondaire sont des partenariats publics, c'est sûr. Voilà. Ce qui n'empêche pas que des choses très bien se fassent par ailleurs.
Bon, merci.